Avec tout le respect pour le lieutenant-colonel Pont-Henri Damiba, président de la junte au Burkina Faso, il a pris le pouvoir suite à un putsch militaire et où il ne s'est heurté à aucune opposition, ni menace, ni chantage, encore moins des sanctions de la part de la France ou de la CEDEAO et UMOA. Zoom Afrique ne peut le croire quand il dit « Il faut savoir que 95% de ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés et qu'ils ne vont donc pas déclarer la guerre à des Burkinabés. Par contre, ils vont trouver d'autres issues pour y parvenir. » Si on entreprend là-bas la négociation pour essayer de résoudre éventuellement le problème, nous pensons que dans un délai raisonnable, cela pourrait être une solution possible pour le Burkina Faso. Maintenant, si la société civile, terme utilisé par le RFI dans son rapport daté de ce 13 février, terme reconnaissons-le bien obscur et dont les accointances restent potentiellement manipulables, société civile qu'on sait être souvent composée des ONG financées par les puissances d'occupation, eh bien si cette société civile crée une coalition pour soutenir la transition, veut dialoguer avec le président de la transition, tant mieux, surtout si cette coalition, comme le souligne RFI, a pour mission de dénoncer d'éventuels manquements. Mais que le président lieutenant Damiba ne nous dise surtout pas, comme le confirme encore RFI Dixit, les consultations avec cette coalition et la coordination qui y sont liées pour une transition réussie, on veut que la communauté internationale les accompagne durant cette période difficile. Car, n'en déplaise aux amis africains de la communauté internationale, celle-même qui a décidé de sanctionner le Mali, pouvoir avoir dit non au maintien de l'occupation étrangère, cette communauté internationale signifie la France, l'OTAN, les États-Unis, soit tout ce monde de colonisateurs dont les plans et les projets, tout comme les ingérences, ont fait du Sahel un vivier de terroristes made in Occident. Puis le Faso, pays de Sankara, comme l'ont montré les villageois de Kaya lors de leur face-à-face avec Barkhane, n'ont pas besoin de cette foutue communauté internationale qui n'a pas honte de piller le Mali, le Niger, le Burkina via des contrats miniers colossaux tout en imposant à ses peuples sanctions, exil et guerre. Cette communauté internationale, incarnée par Barkhane, prétend d'ailleurs ce dimanche avoir tué 40 djihadistes au Burkina, ceux-là même qui auraient attaqué le Bénin. Le général Damiba ne veut pas dire que ces djihadistes ont été des Burkinabés qui veulent du mal aux Sahéliens et que la France est venue comme sauveur les liquider pour le bien-être de l'Afrique. Non, il n'irait pas jusqu'à se ridiculiser à ce point. Ces terroristes, ce sont des agents des services secrets français et otaniens, américains et israéliens, qui ont pour mission d'étendre le terrorisme comme l'avait promis en 2021 le chef de la DSGE du Sahel vers la côte. Les États côtiers le savent, à commencer par le Sénégal, qui a boudé l'Africom en boycottant son tout dernier exercice. Même la Côte d'Ivoire, dirigée par l'ami de l'Occident Ouattara, qui a pris part, sait parfaitement à quoi jouent les Occidentaux, d'où d'ailleurs ses entretiens téléphoniques avec les autorités maliennes. Disons que les trois dernières lignes du rapport de RFI gênent particulièrement. La mise en place de cette coalition a lieu alors qu'une commission technique travaille sur un projet de charte qui définira les contours de la transition. Installée depuis le 8 février dernier, elle a 15 jours pour remettre son rapport. La junte malienne ne bénéficie pas d'une telle clémence de la part de RFI que celle de Burkina. Bref, cette clémence est inquiétante et entendrait à y avoir une manœuvre de diversion destinée à briser ce dynamisme d'inter-alliance africaine qui fait si peur. Un dynamisme qui tend à briser les accords militaires avec les Occidentaux, à donner naissance à un véritable bloc militaire africain infiniment plus puissant que l'OTAN ou n'importe quelle autre coalition militaire occidentale. Est-ce qu'une opération sous fausse bannière tombe au Bénin? À peine quelques jours après un coup d'État au Burkina qui risque de faire dévrouiller le pays à des ingérences de tout genre et de transformer le pays en un fief terroriste, une attaque a eu lieu au Bénin et la France dit avoir perdu un militaire. Au moins 9 morts, dont un Français et 12 blessés parmi les équipes en charge de sécuriser le parc naturel W, dans le nord du Bénin, ont péri à l'issue de 3 attaques à la bombe artisanale, mardi et jeudi, selon un nouveau bilan du gouvernement béninois. Force est de constater que la France et ses alliés sont désormais perçus comme une puissance coloniale qui poursuit les mêmes vieilles pratiques coloniales dans un nouvel environnement international. Ces pratiques ont pour but de siphonner les ressources des pays africains en imposant des conditions d'interaction économique défavorables et disproportionnées, en soutenant des élites compradores corrompues qui agissent dans l'intérêt des grandes entreprises françaises plutôt que dans celui de leur propre peuple. Il y a plusieurs mois, le chef de DSGE mettait en garde le Bénin et la Côte d'Ivoire contre une extension du terrorisme en provenance du Sahel. Cela veut dire que les services secrets occidentaux ont commencé à partir de cette même date à chercher à exporter la violence terroriste vers la côte, mais sans grand succès. Le verrou burkinabé a sauté, mais de l'autre côté, le Niger et le Mali et le Bénin, eux aussi, réussissent à couper l'arbre sous le pied des occidentaux. Barkhane Essi, présent depuis des années au Sahel, ayant dépensé des milliers de dollars dans leur institution soi-disant antiterroriste, ont bien compris qu'ils n'ont plus de place au Sahel, d'où ces agissements au Bénin et dans les pays de la côte. Cette opération survenue au Bénin et ayant tué un militaire français pourrait donc très bien être une opération sous fausse bannière, tout comme celle de Tongo Tongo, permettant à la force colonialiste et ses acolytes de débarquer dans cette région de l'Afrique. D'ailleurs, les maintes rapports des agences de presse mainstream renforcent cette idée quand ils parlent de l'extension du terrorisme vers la côte, ou encore un article publié par Ouest France qui annonce clairement que les groupes extrémistes traversent désormais régulièrement les 3 régions de la Liborie, du Bourgou et de la Tokara, frontalières avec le Niger, le Burkina et le Nigeria. Et ces 3 pays sont depuis des années le théâtre de violences djihadistes et communautaires qui ont fait des milliers de morts et de déplacés. Le président Talon a jusqu'ici été assez intelligent et a très vite mobilisé l'armée dans le nord du pays après les 2 premières attaques terroristes et officiellement reconnues à la fin de l'année dernière. L'or est à la résistance et les Béninois sont prêts à tout pour défendre la souveraineté de leur pays. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est rendu à Téhéran et a rencontré cet après-midi Hossein Amir Abdollahian. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui s'est rendu à Téhéran cet après-midi au ministère des Affaires étrangères, a été accueilli par son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. Les ministres des Affaires étrangères des 2 pays se sont ensuite assis à une table de négociation. De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères a qualifié l'Iran de modèle de progrès scientifique sous la pression de l'arrogance mondiale. Washington a toujours exprimé ses inquiétudes quant au progrès scientifique de l'Iran. Dans le dossier « Développement à la suite du lancement de dispositifs de recherche dans l'espace par Téhéran » qui a marqué une autre étape majeure dans les progrès scientifiques de l'Iran, un porte-parole du département d'État américain a déclaré « Les États-Unis restent préoccupés par le développement par l'Iran de lanceurs spatiaux ». Lors d'une rencontre avec le ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie, Mohamed Ali Zolfigol, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré « La République islamique, avec ses avancées scientifiques et technologiques, est un modèle pour les pays qui veulent tenir tête à l'arrogance mondiale et leurs sanctions oppressives ». Le Mali a été sanctionné par certains pays américains, européens et africains et nous sommes intéressés à utiliser l'expérience de l'Iran pour développer la science et la technologie, a déclaré Abdoulaye Diop. Le ministre iranien de la Science, de la Recherche et de la Technologie a également déclaré lors de cette réunion « L'Iran se classe au 15e rang mondial pour la production scientifique et premier rang dans la région ». Il accorde donc une attention particulière au transfert de ses expériences en sciences et technologies vers des pays amis et frères. Quand les États-Unis rappellent l'État camerounais à l'ordre en prétendant que l'armée tue et pille dans les régions anglophones et que l'État au Cameroun devrait y être dirigé de façon fédérale et que son ambassadeur n'hésite même pas à le souligner noir sur blanc, l'observateur a parfaitement le droit de jeter à la figure des Yankees ceci. L'organisation Human Rights Watch accuse Washington d'avoir exposé des demandeurs d'asile camerounais à des maltraitances durant leur expulsion et à de graves préjudices dans leur pays d'origine. Alors que plusieurs fuient les crises en cours au Cameroun, l'ONG suggère au gouvernement des deux pays de remédier à ces abus. Le gouvernement des États-Unis a complètement laissé tomber des Camerounais ayant des demandes d'asile crédibles en les renvoyant dans les pays qu'ils ont fui, ainsi qu'en maltraitant des personnes déjà traumatisées avant et pendant leur expulsion, a déclaré Laurence Hébert, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à Human Rights Watch. Dans sa démarche, Human Rights Watch dit avoir mené des entretiens auprès d'une centaine de demandeurs d'asile camerounais aux États-Unis et au Cameroun, notamment des membres de famille et amis des personnes expulsées, des témoins d'abus, des avocats, des défenseurs des droits de migrants et des experts. Commentant pour Spoutnik, le rapport subventionné Hilaire Kamga, ancien responsable Cameroun de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, pense qu'il est regrettable de réaliser que c'est le gouvernement des États-Unis qui se permet de tels abus lorsqu'on sait que pour la plupart des personnes concernées par ces expulsions, le motif de la crise ambiante dans les régions anglophones du Cameroun est évoqué. Cela est tout simplement grave que les États-Unis, membres des Nations Unies, puissent se permettre ces actes de violation du droit international des droits de l'homme en expulsant des citoyens vers des lieux où ils pourraient subir des tortures, se désole le spécialiste. En effet, au Cameroun, l'Occident s'efforce depuis plus de 5 ans à reproduire un scénario à base linguistique sous prétexte d'une crise anglophone. Ce scandale de maltraitance des Africains montre encore une fois que sous le masque des droits de l'homme, des projets de développement de petite et de grande taille, des assistances médicales de tout genre, des appuis pharmaceutiques, soit tous les domaines où les Occidentaux se montrent si magnanimes envers l'Afrique, ils se cachent du terrorisme, du bioterrorisme, des velléités putschistes entre autres. Les Camerounais vivent en parfaite harmonie. Et si on entend de part et d'autre que des demandeurs d'asile sont maltraités par les États-Unis, ce sont ces mêmes États-Unis qui ont provoqué l'exode de la population à travers la crise anglophone, montée de toutes pièces par ceux-ci. Mais Yaoundé n'est pas né de la dernière pluie. Il sait comment déjouer les coups fourrés. Au Cameroun, la fête de la jeunesse a eu lieu ce vendredi 11 février. À cette occasion, la veille, le président Paul Biya a adressé son traditionnel message à ses jeunes compatriotes, un discours dans lequel il est notamment revenu sur un sujet déjà évoqué dans ses vœux pour la nouvelle année, à savoir les discours de haine sur les discours sociaux, des dérives que le chef d'État déclare déplorer. Paul Biya fait référence aux messages insultants ou à connotation discriminatoire que l'on peut lire de façon récurrente sur Facebook, des messages qui s'en prennent notamment au groupe tribal Béti associé au régime de Yaoundé ou au groupe Bamileke associé au parti d'opposition du MRS. Le phénomène s'est amplifié avec la crise anglophone qui dure depuis 5 ans et aussi depuis la dernière présidentielle de 2018. Ces discours haineux prennent plusieurs formes, informations fabriquées, véhiculant des idées fausses sur tel ou tel groupe tribal, tournures de phrases qui sous-entendent des divisions entre Camerounais ou encore des contenus qui sont sans ambiguïté des insultes. Après un ralentissement à 0,4% en 2020, la Banque centrale du Ghana estime que le taux de croissance économique du pays devrait dépasser l'objectif de 4,4% en 2021. La deuxième économie de la CDAO, qui avait progressé de 6,5% en 2019, souffle ainsi après avoir été touchée par la pandémie de COVID-19. L'économie a poursuivi sa forte reprise après le ralentissement économique lié à la COVID-19. Les dernières données du Ghana Statistical Service mises au jour montrent que la croissance moyenne du PIB réel pour les 3 premiers trimestres de 2021 est de 5,3% contre une contraction moyenne de 0,6% enregistrés au cours de la même période de 2020 relève la Banque centrale. De même, précise la même source, la croissance moyenne du PIB non pétrolier est de 6,9% contre une contraction de 0,3% par rapport à la même période en 2020. Joseph Kabila a terminé son séjour en Afrique du Sud. Il est rentré à Kinshasa vendredi soir, annonce à actualité.cd un de ses proches collaborateurs. L'ancien chef de l'État séjournait au pays de Mandela à la suite d'un accident de circulation dans la périphérie de Kinshasa. Il y était pour un contrôle médical. Il en a profité pour un programme académique, toujours selon ses proches. Son retour intervient dans un contexte marqué par l'interdiction de voyage de Zoé Kabila. Il convient de rappeler qu'en octobre 2021, Joseph Kabila avait obtenu un diplôme de master en sciences politiques et relations internationales dans la même université sud-africaine. Au terme des études qui ont duré 5 ans, il avait pu défendre son mémoire. Son mémoire s'intitulait « Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo, un narratif autobiographique et une analyse auto-ethnographique ». Un mémoire qui a été dédié à son feu père, Laurent Désiré Kabila, et aux personnes décédées dans la recherche de la paix en RDC. Le président sénégalais Macky Sall a donné le coup d'envoi jeudi à Dakar des travaux de la 10e conférence internationale des grandes chancelleries francophones au sud du Sahara. Une vingtaine de pays membres, observateurs et invités participent, d'après les organisateurs, à la rencontre qui se tient sur 2 jours sur le thème « La sanction du mérite et de l'excellence, rôle des grandes chancelleries ». En mettant votre expérience professionnelle exemplaire au service de la réflexion collective sous la sanction du mérite et de l'excellence, vous faites le choix de servir davantage notre espace commun, la francophonie et ses valeurs de solidarité et d'engagement, indiquait le président Sall dans son allocution d'ouverture. Votre session contribuera à améliorer, dans la durée, nos systèmes de distinction nationale et la qualité de la ressource humaine pour un meilleur choix des futurs candidats aux décorations, a-t-il poursuivi, s'engageant à construire un nouveau siège fonctionnel et digne de la grande chancellerie.